Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. C'est le récit d'une aventure extraterrienne. Mettons la grande voile. De Saint-Malo aux îles Britanniques, cette série est produite par Extraterrien et elle est sponsorisée par Arken, équipementier pour voiliers de référence. Bon vent et bon épisode. Ça y est, ma valise est prête. Il est vendredi 18h et je pars en métro pour retrouver mes coéquipiers. Quentin, alias Popo, que vous connaissez depuis le premier épisode, et Jean-Jean et Rajiv, que je ne connais pas encore. Mais dès que j'arrive, le courant passe super bien. Ils sont expérimentés, mais surtout passionnés. On discute un peu, et à 20h, on se met en chemin. On prend la voiture direction Saint-Malo. On va se retrouver 4h dans une 208, alors on fait la discute. Bien évidemment, je suis très curieux. Alors je leur demande comment est-ce qu'ils ont appris à naviguer.
Alors moi, j'ai appris à naviguer en prenant des cours au Glénan. Okay. L'école des Glénans, célèbre école. Et du coup, j'ai fait pas mal de stages au Glénan, enfin sur différentes bases, et en l'occurrence en embarqué, notamment en Bretagne, que ce soit aux îles des Glénans, à côté de Concarneau, ou à Paimpol, en Bretagne Nord.
Trop bien, trop bien, merci. Et dedans, ils te font des cours de météo.
Et dedans, ouais, c'est très complet, parce que tu apprends la vie à bord d'un bateau, donc avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire pas simplement, pas juste les manœuvres du bateau, quand on manœuvre le bateau, mais la vie à bord d'un bateau. Donc la gestion de l'équipage, la gestion justement de ce que c'est l'avitaillement, comment tu gères tes cars, comment tu gères la nourriture, comment tu vas organiser la vie de chacun à bord de ton bateau, mais aussi effectivement comment tu vas prendre la météo, comment tu vas anticiper tes navigations, les navigations à venir.
Trop bien, bon, je sais quoi faire pour mes prochaines vacances.
Tous les trois se connaissent par cœur, ils ont navigué de nombreuses fois ensemble. Après une heure, on commence vraiment à organiser le voyage. Première étape déterminante pour quatre garçons affamés et sportifs, le menu. Ça sera salade de riz, pâte carbonara, shakshuka et saucisse lentille. Évidemment, on rajoute dans le panier quelques bières, une bonne bouteille de rhum, ainsi que du saucisson et des rillettes. vient au tour du plan de navigation. Rajiv sort son téléphone et me montre une application.
On a quoi comme météo demain, Raj?
Alors, on a plutôt un beau temps, assez ensoleillé, sur l'ensemble de la journée jusque en milieu d'après-midi. Il y a moyen qu'on se prenne un petit peu de flotte entre 16 et 18 heures. On a un vent qui est bien, on est entre 12-15 nœuds de vent sur la journée, avec des petites rafales à 20-22. Il pleuvra dans la nuit du samedi au dimanche quand on sera au port, donc ça c'est bien. Et il devrait faire beau, donc à Jersey, il est censé faire plutôt beau la journée du dimanche, ensoleillé, avec un vent qui va monter à 17 nœuds en moyenne, et ça c'est très bien aussi. On est content.
On est dans les conditions idéales, j'ai l'impression.
On a des bonnes conditions, exactement, ouais. Je regarde, ouais, on est très bien.
Ensuite, c'est au tour de Quentin de m'expliquer tout le plan de navigation et tout le projet qu'il a prévu pour nous.
Donc demain, déjà, il y a le check du bateau à 9h30 avec le loueur. Ça va prendre à peu près une demi-heure. L'idée, c'est qu'il me montre les voiles, le moteur, tous les éléments que j'ai à savoir. On va faire le petit inventaire. On est censé faire l'inventaire du bateau, mais en vrai, on le fait jamais parce que ça leur fait chier, ça nous fait chier. Après 9h30, bah, il y a quelqu'un qui va aller faire des courses. Je sais pas qui, je pense. Bah, Jean-Jean, parce qu'il a la voiture, et un de vous deux, Bart ou Raji, je pense que ça sera Bart. Exactement. Une fois que vous revenez avec les courses, on essaye quand même de viser un retour, je sais pas, à 11h, 11h30. On se prépare et on est efficace demain midi. Donc d'ailleurs, vous aurez la responsabilité d'acheter les sandwichs sur votre chemin retour avant d'arriver au port. Et une fois ça fait, bah, on largue les amarres et on se barre à midi. J'ai aucune idée du nombre d'heures de nav qu'on va faire pour aller jusqu'à Jersey ou à Guernesey. On l'a fait une fois avec Rajiv, la première fois qu'on a navigué ensemble. On avait dit qu'on allait mettre 4 heures. 14h. On était censé arriver à 9h, on est arrivé à 3h. Alors en fait, vous partez avec une équipe de champions du monde, mais depuis ce week-end-là, c'était il y a 6 ans, on en a fait d'autres. Donc on a appris de nos erreurs. Donc a priori, demain, je sais pas, si on part à midi, si on a le vent qui nous porte, et si on est chanceux avec le spi et qu'on ne trouve pas le spi, qu'on n'a pas d'emmerde, on peut être boire notre première bière à Saint-Hélier, à mon avis, autour des 22h. Si on arrive à 22h, on est bon. Ça, c'est Jersey. Dimanche, ouais. On part de Jersey, donc Saint-Hélier, le port de Saint-Hélier qui est au sud de l'île de Jersey, pour aller soit à Guernesey, qui est un peu plus au nord de Jersey. Ça doit être à peu près, si vent continue, je sais pas, avant nœud de vent, ça doit être à 5 heures de voile, si on a les conditions qui nous portent bien. C'est soit Guernesey, soit c'est Sark. Si on va à Guernesey, c'est un port, on peut se brancher, on a tout le confort d'un port et on a les pubs à côté. Soit on va à Sark. Sark, c'est une toute petite île à côté de Guernesey. C'est très pittoresque. Là, on dormirait accroché à une bouée. Et l'avantage de ça, c'est que le lendemain matin, quand tu te réveilles, bah, tu te réveilles, tu prends ton petit-déj au milieu d'une crique. Et avec, à mon avis, pas grand monde autour de toi, parce qu'on est quand même fin octobre et qu'il n'y a pas grand monde qui s'amuse à louer un bateau en cette période-là. Donc ça, c'est un choix à faire, on l'a pas encore décidé. Et le lundi et le mardi, c'est un peu plus compliqué, parce que en fait, c'est un peu trop loin d'un point de vue météorologique. Donc, dans ma tête, le lundi soir, ça serait peut-être Chauzet. Pour rentrer après tranquillement, le mardi, faire Chauzet-Saint-Malo, ce qui est pas grand-chose, Chauzet-Saint-Malo, c'est 5 heures de nav si t'as pas un vent très favorable. C'est-à-dire que tu as un vent qui te vient dans le nez et qui ne vient pas derrière toi, qui ne te pousse pas. Et donc lundi, ça serait la grosse nav, un peu sportive, je pense, qui ferait Guernesey-Sark jusqu'à Chauzet. Donc là, on est sur une petite dizaine d'heures de nav. Ah, peut-être plus. Si on a le vent de face, peut-être 15 heures.
On a déjà fait quand même beaucoup de conneries sur ce trajet, sur ce programme-là, donc on peut se dire que ça ne peut être que mieux.
Tout n'est pas très clair pour moi, mais eux ont l'air très confiants. Ils ont l'air sûrs d'eux, donc je leur fais confiance. En plus, ils ont plein de choses à m'apprendre, le temps passe très vite dans la voiture. Nous arrivons vers 1h du matin à Saint-Malo. On pourrait être fatigué, mais quand même, on voudrait pas manquer le fameux rhum de l'amitié. On papote, on discute et le temps passe. De mon côté, je suis surexcité. Je découvre la cabine et tout l'environnement du bateau. C'est rustique, certes, mais je me sens chez moi. Et si c'était ça le bonheur? Se sentir bien, avec très peu, partout où l'on va. Je fais mon lit, ou plutôt je déroule mon duvet de fortune, et la j'entends Rajiv pousser un cri d'énervement. Je sors de ma cabine et je me retrouve nez à nez avec lui. Il a la jambe en sang. Il nous explique alors qu'il est tombé dans une trappe qui était restée ouverte sur le pont. Il saigne beaucoup. Alors Jean-Jean, très calme, lui fait un bandage. Le sang me fait un peu tourner de l'œil, donc je m'éloigne un petit peu de la scène. Jean-Jean m'explique que il faudra probablement que demain il passe à l'hôpital pour se faire faire quelques points de suture. Merde, cette aventure commence mal. En tout cas, j'espérais pas qu'elle commencerait ainsi. Mais Rajiv garde son calme, et les autres aussi, donc on va tous se coucher. Une fois dans mon duvet, je tends l'oreille. Il y a plein de bruit insoupçonné sur un port. Les cordes qui claquent le mât, le clapotis de l'eau, les pare-battages qui grincent. Mais je m'endors comme une masse. Il est 3h du matin. Mon réveil est désagréable. Il est 8h du matin et j'entends un énorme ferry. Il fait encore nuit. J'ai froid, mais je me sens animé d'une énergie folle. Je sors du bateau, contemple ce port magnifique autour de moi et je médite un peu sur le pont du bateau. J'en profite pour faire quelques vidéos et quelques stories et je vois que les gars se lèvent. Nous nous étions fixé un gros objectif, celui de partir à midi, et nous avons du pain sur la planche. Alors on se répartit très vite les tâches. Pas le choix, Rajiv doit passer à l'hôpital. Bon, et pas de bol pour Jean-Jean, c'est sa voiture, donc il va devoir faire le taxi et l'amener. En plus, il doit se coltiner les courses, tout seul, pas de chance. Pendant ce temps-là, Quentin, qui a loué le bateau, va faire l'inventaire avec le loueur de bateau. De mon côté, je suis le plus chanceux. Je passe au village de la route du Rhum chercher quelques affaires que Hugo de la team Imoca Malaysia nous prête. Le village grouille, il y a une ambiance formidable. D'ailleurs, j'en profite pour voir quelques contacts. Nous nous rejoignons 2 heures plus tard. Heureusement pour Rajiv, en plus de ses 4 points de suture, il aura vu une jolie interne. De son côté, Jean-Jean rouspète un peu. Les courses, c'était pas très agréable. On décharge la voiture et mettons toutes les courses dans un chariot. Une fois au bateau, on se passe les courses de main en main pour les faire atterrir dans les rangements. Il démarre le moteur, nous faisons la petite manip, et ensuite il me regarde et me dit « Tu sais, il y a une étape incontournable qu'il faut que tu enregistres, c'est le speech du skipper. » Alors, on l'écoute.
On vient de partir du port des Saint-Blancs de Saint-Malo, et chose inhabituelle, je fais le speech une fois qu'on est sur l'eau. Normalement, le speech, ça se fait toujours au départ, donc au port, pour bien coordonner toutes les personnes et bien indiquer aux personnes les choses qu'il faut faire et les choses qu'il faut pas faire sur un bateau. On a fait ce choix-là parce qu'on a eu un ami qui a eu la bonne idée d'aller aux urgences ce matin à 10h. Donc c'est un peu décalé notre programme. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un bateau? Premièrement, sur un bateau, la règle la plus simple, c'est que quand on se déplace sur un bateau, n'importe où sur le bateau, faut toujours se tenir à une main à quelque chose. Pourquoi? On n'est jamais à l'abri d'avoir une vague ou peu importe quoi qui fasse tanguer le bateau. Et si tu tombes à la flotte, bah là, c'est la merde. Donc, toujours s'accrocher. Deuxième règle, règle que j'ai pas indiquée, mais parce qu'on l'a fait attention et que j'ai quand même maintenant des non-novices sur mon bateau, c'est que quand on part, la première chose qu'il faut checker, c'est qu'il faut checker les hublots. C'est con, mais partir en mer avec des hublots ouverts, bah c'est avoir la mauvaise surprise que le soir, quand tu te couches, t'as ta couchette trempée. Première chose à régler, c'est du pratico-pratique, mais ça peut t'aider. Deuxième règle, aujourd'hui on met pas les gilets de sauvetage. Pourquoi? On devrait les mettre, mais les conditions de mer sont tellement bonnes et le vent n'est pas trop fort, on peut se permettre de pas les mettre. Si ça forcit, si la mer prend, faudra mettre les gilets de sauvetage, j'ai aucune discussion là-dessus. Troisième règle importante, sur un bateau il y a des rôles. Il s'avère que pour ce week-end c'est moi le skipper. Donc s'il y a des ordres à donner, c'est à moi de les donner, et si je donne des ordres, bah faut les suivre. Là, donc on est parti de Saint-Malo, on a pour objectif d'aller à Jersey, donc Jersey c'est à 35 000 au nord de Saint-Malo, on a 15 nœuds de vent au portant, on peut peut-être espérer de faire une petite dizaine de nœuds, donc c'est à peu près de 17-18 km/h pour les non-initiés. Et à cette vitesse-là, 35 nœuds, à 9 nœuds, on devrait y être au bout de 4 heures. Ça, c'est sur le papier. On verra à quelle heure on arrive. Si on fait plus que 7 heures, je serai déçu. Si on fait moins, je serai content. qu'est-ce qu'il faut savoir de plus sur un bateau? Là, on va hisser les voiles. C'est la prochaine étape. On est sorti tranquillement, sans encombre du port. On est dans le chenal. Qu'est-ce que c'est le chenal? C'est un peu la voie obligatoire pour tous les bateaux qui veulent rentrer au port. Ils doivent passer entre des bouées rouges et des bouées vertes. Et ce chenal te donne une voie sécurisée. C'est une voie où il n'y a pas de cailloux, tu ne peux pas taper. Donc là, on est dans le chenal. On est tranquille, il n'y a pas grand monde autour de nous, on est au portant, on va pouvoir hisser les voiles très rapidement. Pour hisser les voiles, chose très simple, il va falloir se mettre face au vent, ou vent debout. Face au vent, pourquoi? Parce que si on se retrouve à hisser les voiles avec le vent arrière ou le vent de côté, la force du vent qui va s'appliquer sur les voiles va rendre la chose très difficile. Il sera très compliqué de hisser la voile. Si tu te mets vent de face, le vent va souffler des deux côtés de la voile va se mettre dans l'axe du bateau, il n'y aura pas de force qui s'applique, donc ça aide énormément pour hisser les voiles. Donc, ce qui va se passer, c'est que Rajiv, qui est à la barre, va se mettre vent debout. Quand on hisse les voiles, celui qui a la main sur toute la manœuvre et qui donne les ordres, c'est Rajiv, donc c'est-à-dire le barreur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige l'axe du bateau. Si le bateau n'est pas dans l'axe du vent, on n'en voit pas. Une fois que le bateau sera dans l'axe du vent, Rajiv va pouvoir crier « hisser ». Là, les personnes qui seront à cette tâche-là, pour hisser la GV et le Génois, se lanceront. On va commencer par la grande voile, qui est la voile la plus compliquée à hisser, qui est pas très compliquée, mais qui est plus compliquée que la voile d'avant. Bart, tu seras donc sur le niveau de la drisse et tu vas travailler tes bras, tu vas tirer. Et moi, je vais juste checker. C'est l'avantage du skipper, c'est qu'il fait pas grand-chose, il regarde, il observe. C'est un peu un grand chef de projet qui coordonne les choses. Ça tombe bien, c'est mon métier. Donc, a priori, je crois que j'ai dit les choses les plus importantes. Il y a d'autres éléments que je pourrais énumérer. Par exemple, si quelqu'un tombe à la mer, mais je le ferai dans un autre épisode. Car ça peut prendre un peu de temps également. Et que là, maintenant, il est temps de hisser les voiles parce qu'on va pas faire que du moteur pour aller à Jersey.
C'est bon, tu parles déjà comme un podcasteur, t'as déjà tout compris. Bon, l'équipe est prête et on est parti. Ça y est. Nous voilà partis dans une aventure partie sur les chapeaux de roue. En tout cas, pas tout à fait comme je l'attendais. Mais avec cette équipe, c'est sûr, il va se passer des jolies choses. Alors, on se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. À très vite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.